où on obtient la justice, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous nous repentons, et nous sommes après convaincus de justice. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, un chrétien, il sait qu'il est sauvé. Il sait que s'il doit mourir demain, ou après-demain, ou n'importe quand, il sait qu'il a obtenu la justice. C'est une conviction extraordinaire que d'être convaincu de justice. C'est merveilleux d'être convaincu de justice. Ou alors, il y a une conviction de jugement. Je n'ai pas fait la paix avec Dieu, je ne veux pas du Seigneur, et j'ai ce poids du jugement. La Bible dit que celui qui ne croit pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une affaire très sérieuse, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de présence régulière ou à des réunions, ou de se promener avec la Bible sous le bras, ou de dire « moi je suis chrétien, moi je suis pentecôtiste », tout ça, ça ne veut rien dire du tout. C'est une question de conversion, ce qu'on appelle également la nouvelle naissance, quelque chose de nouveau qui vient dans notre cœur. Si quelqu'un a soif de paix, est-ce qu'on peut repartir tous avec une grande paix tout à l'heure? Oui. Vous vous rendez compte, on peut partir en paix. C'est pas extraordinaire ça? Qui c'est qui peut vous donner la paix? Les tranquillisants? Tranquillisants. Vous avez vu le nom qu'on a donné aux médicaments? Les tranquillisants. Mais dans la Bible, c'est Dieu qui nous donne la tranquillité. Bon, béni soit Dieu pour la médecine, béni soit Dieu pour les médicaments. Quel bonheur. Mais quand même, nous avons un Dieu de délivrance, un Dieu de guérison. Oui, avoir soif de paix, avoir soif de justice, c'est important, il est notre justice. Mais il y a une chose qui est encore plus importante, qui canalise tout le reste, c'est sa présence. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne où? À moi. Que faites-vous de Jésus? Qui est Jésus pour vous? Le connaissez-vous vraiment? Ce matin, Paul, nous avons pris cette parole de Paul aux Éphésiens quand il dit « Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Comment, c'était le titre de la prédication de ce matin, « Comment avez-vous appris Christ ? » Comment le connaissez-vous? Je suis très bien placé pour savoir que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Ils vont vous parler de lui et ils vont dire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu, avec ce que lui, il enseignait. Il y a des gens, des fois, qui me disent, vous savez, monsieur Gault, que Jésus, il a fait ça. Ah bon, vous l'avez vu où? Ah ben, je ne sais pas, on me l'a dit. Mais je dis, mais c'est pas dans la Bible, ça. Vous savez que Jésus, il a fait des miracles quand il était petit? Ah bon? Ah bon? C'est où que Jésus a fait son premier miracle? Sûr? Eh oui, c'est écrit que c'est à Cana, en Galilée, que Jésus accomplit son premier miracle et que les disciples crurent en lui, aux noces de Cana. Voilà, le premier miracle, Jésus l'a fait, il avait 30 ans. Il ne l'a pas fait quand il était garçon, il ne transformait pas la pâte à modeler en oiseau, etc. Non, même s'il est le fils de Dieu, il n'a commencé son ministère qu'à partir de 30 ans. C'est important, mes frères et sœurs, venir à Jésus. Combien je voudrais vous exhorter. Je pensais reprendre la prédication que j'ai faite ce matin. Je pense que c'était un petit peu carré pour certaines personnes qui ont besoin surtout de rencontrer Jésus-Christ. Car vous savez que s'il vous pose cette question, si quelqu'un a soif, s'il vous propose cette invitation, lui aussi également, il a soif de vous rencontrer. C'est une des sept paroles que Jésus a prononcées sur le bois de la croix. J'ai soif. Moi, c'est une parole qui m'a toujours, toujours bouleversé. Vous allez me dire, mais ce n'est pas si compliqué. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ est le Dieu du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé toutes les sources d'eau, la nappe phréatique, qui a créé les sources, les montagnes, les lacs, les rivières. C'est lui qui a tout créé, oui ou non? Est-ce que c'est écrit? Il a tout créé. Et le Dieu qui a tout créé a eu soif. Mais je ne crois pas que Jésus sur la croix était en train de se plaindre et de se lamenter par rapport à ses propres besoins. Je crois qu'en exprimant cette parole, Jésus-Christ expliquait la soif qu'il avait de nous avoir avec lui. Et croyez-moi, ça tient debout ce que je vous dis par rapport à l'ensemble de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut nous avoir avec lui. Pourquoi il a pleuré devant la ville de Jérusalem? Pourquoi lorsque, avant de mourir, qu'il était à Jérusalem, il a pleuré? Vous rappelez qu'il a pleuré? Il a pleuré. Et, oh, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, hein, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le temps de son ministère, Jésus voulait rassembler les hommes. Ils n'ont pas voulu. Jésus ne les a pas obligés. Et ils sont passés à côté de la bénédiction. Et on sait comment ça s'est terminé, comment ça se termine toujours mal quand on refuse de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce! Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Quelle bénédiction! Avez-vous cette bénédiction? Pouvez dire comme le psalmiste dans le psaume 91, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, il te couvrira sous ses plumes. » Quelle bénédiction! Voilà ce que c'est d'être chrétien, c'est être couvert, c'est être à l'abri du jugement, c'est pouvoir dire « il est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur ». Voilà cette soif que Jésus a, il a soif de vous avoir avec lui, parce que si Jésus ne vous a pas avec lui, vous terminerez très très mal. Vous allez me dire « ah ça y est, il va encore reparler de l'enfer ». Eh bien oui, qui c'est qui a parlé le plus souvent de l'enfer au fait dans la Bible? Qui c'est qui peut me dire, qui c'est qui a parlé des pleurs et des grincements de dents? Quel est, il n'y a que Jésus qui parle des pleurs et des grincements de dents, il n'y a que lui. Il y a 12 textes ou 13 sur la géhenne qui nous parlent de l'enfer. 12, vous savez combien de fois Jésus parle de la géhenne sur les 12 textes? 11 fois sur 12, vous vous rendez compte? Et pourtant c'est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde et il a soif de nous avoir avec lui. Avez-vous soif de vous retrouver avec lui? Avez-vous soif de lui cet après-midi? Pourquoi êtes-vous venu dans ce lieu? Êtes-vous venu dans ce lieu parce qu'il y avait une agape et qu'on a partagé un repas? Est-ce que c'est bien de partager un repas ensemble? Quelle bénédiction! Quelle bénédiction de pouvoir partager ensemble un repas, de pouvoir baigner dans la communion fraternelle. C'est extraordinaire la communion fraternelle. Mais il y a beaucoup plus grand que la communion fraternelle. Il y a la communion avec Dieu. Il y a cette communion réelle, parce que cette communion réelle avec Dieu procure la paix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venir dans une église, c'est bien. Écouter une prédication, c'est bien. Mais si vous mettez une bouteille fermée sous une source, ça servira à rien. Ça peut faire joli pour la photo, mais ça sert à rien. Et il faut que la bouteille, elle soit ouverte. Et c'est à nous de dire, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur, je veux véritablement, lorsque je vais lire ta parole, je vais me placer sous ton regard. Et tu vas me parler par ta parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il y a un verbe qui indique un effort. Vous avez fait un effort pour venir déjà physiquement, mais il y a aussi un effort spirituel où j'en suis de ma communion avec Dieu. Si je devais mourir ce soir, irais-je au ciel ou partirais-je en enfer? Ce sont des vraies questions. Il faut que vous voulez posiez. Souvent, on m'a demandé, mais à quoi ça sert un pasteur? Eh bien, un pasteur, ça sert à cela, à vous aider, à vous préparer, à rencontrer Dieu. C'est à ça à quoi ça sert un pasteur. Et vous devez comprendre que cette invitation, elle est solennelle, que la religion ne servira à rien. Vous voyez, Jésus a bien calé l'invitation à la fin d'une fête religieuse qui durait 7 jours, parce que ces gens n'étaient pas satisfaits. Vous pouvez faire des fêtes tant que vous voudrez, des pèlerinages tant que vous voudrez, tant que vous ne viendrez pas à Jésus, votre cœur sera malheureux. Votre cœur sera triste. Ce n'est pas en changeant de religion non plus que votre cœur sera heureux, il faut venir à lui. Venir à Jésus, ça consiste vraiment à s'approcher déjà avec beaucoup de respect. Je crois que c'est important que dans les églises, on retrouve cette notion de prendre conscience que Dieu est au milieu de nous. On n'est pas là pour du folklore ou du théâtre, de l'amusement ou du divertissement. On n'est pas là pour du spectacle. On est là parce que le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. Et il veut nous parler, il veut nous ramener à lui, il veut nous amener à lui, il veut nous attirer à lui. Il nous dit, oui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a une participation, une réaction de la part de la personne. Je veux boire. Lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu avec son cœur ouvert, il boit. Vous l'avez déjà vérifié, vous allez prendre un psaume, ça va vous rafraîchir. C'est pas vrai? Vous allez prendre un texte de la Bible. Oh, ce matin, quelqu'un me posait des questions. Pourtant, un chrétien qui a longtemps qui est converti. Il m'a posé des questions sur la résurrection. Une question très banale en plus. Mais je dis, mais vous n'avez pas lu 1 Corinthiens 15? Non. Alors, je pense quand même pouvoir me permettre de dire, c'est dommage. Quand on a 7, 8, 10 ans de conversion, qu'on n'ait pas encore lu, qu'on ne soit pas arrivé aux Corinthiens. On lit doucement, j'avoue, mais quand même. Et quand vous lisez ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, vous avez compris. Est-ce que par exemple un infirme, quand la résurrection, il ressuscitera plein de force?
Oui.
C'est écrit?
Oui.
Et il y a tout un chapitre sur la résurrection, c'est un chapitre de folie dans la Bible, tellement il est extraordinaire. Et vous voyez, cette personne n'avait pas lu. Et les gens ne viennent pas à Jésus. Ils viennent d'une manière superstitieuse. Il y a même un jour, quelqu'un qui m'a dit, moi je viens, je prends le pain et le vin, parce que voilà, je veux rester en communion avec Dieu. J'ai dit, pardon? J'ai dit, parce que vous croyez, parce que vous prenez le pain et le vin, vous êtes en communion avec Dieu. Ça s'appelle la superstition. La personne, elle venait que pour prendre le pain et le vin, parce que, vous voyez, elle s'imaginait qu'en prenant le pain et le vin, elle était en communion avec Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est de la superstition, c'est de la religiosité. Vous comprenez bien qu'autant la Sainte Cène est quelque chose d'extraordinairement important, ce n'est pas le pain et le vin qui vont faire qu'on va être communion avec Dieu. Et puis, si la vie chrétienne, c'est juste venir le dimanche matin, le dimanche après-midi, pour faire quelques prières, comme on l'entend parfois, « Seigneur, pardon, pardon, pardon. » Je pense que la vie chrétienne, c'est plus que réobtenir chaque dimanche le pardon des péchés pour vivre continuellement dans la désobéissance. Je crois que la vie chrétienne, c'est quelque chose de supérieur. Je crois que lorsque l'on boit, lorsque l'on se nourrit, et ça passe incontournablement par la nourriture de la parole de Dieu, Jésus l'a dit d'une façon des plus simples, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Est-ce que vous aimez lire votre Bible? Si vous ne lisez pas votre Bible, vous ne vous en sortirez pas. Il y a une sœur dernièrement qui a pris le baptême et qui m'a dit, « Monsieur Gau, j'ai peur. J'ai peur de ne pas tenir debout jusqu'à la fin. » Alors je lui ai dit, « Ben, on va lire un verset. » On va le lire ensemble. On va lire dans Luc 21. Et vous allez me dire, j'ai dit à cette sœur, ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'on sait si on est prêt. Luc 21, verset 36. C'est une exhortation à être très vigilant de la part de Jésus. J'ai dit à cette sœur, là, est-ce que vous vivez ce qu'on va lire? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et j'ai dit à cette sœur, est-ce que vous veillez? Veiller, c'est ça, c'est lire la Bible, pas pour la lire, mais la lire avec cœur et de prier. Est-ce que vous veillez, est-ce que vous priez tous les jours? Elle me dit, mais oui, monsieur, je le fais tous les jours. Eh bien, vous aurez la force. C'est écrit ou c'est pas écrit? Quelqu'un qui veille sérieusement, vous lisez la Bible, vous lisez un chapitre, le lendemain vous en lisez un autre, vous réfléchissez à ce que vous lisez, c'est ça, veillez. Vous allez lire un texte qui parle des prophéties qui sont quand même terribles, certaines. Ah, c'est ce qui est en train de se passer. Il y aura des soulèvements. En 2011, au niveau des soulèvements, on a été vernis, hein, je vous le dis. Vous avez vu tous les soulèvements qu'il y a eu? Il y aura des soulèvements, des coups d'État, mais on va le voir de plus en plus. Ah, oh, c'est vrai, les fondements sont renversés. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous avez vu ce qui se passe? Eh bien, ne vous inquiétez pas, si vous veillez et si vous priez, vous aurez la force spirituelle d'échapper à tout ce qui se passera sur la terre. Et cette sœur, j'ai vu qu'elle était rassurée. C'est ça, je viens à Jésus, je reçois un verset qui me permet d'être rassuré. On chante par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est cet après-midi qu'on a chanté celui-là? Oui, voilà. Mais c'est peut-être un petit cantique très court qui résume très très bien l'évangile, mais c'est un cantique que l'on vit ou que l'on ne vit pas. Mais quelqu'un qui, tous les jours, veillait et priait en tout temps, ça ne veut pas dire quand il pleut et quand il ne pleut pas. Ça veut dire, en tout temps, ça veut dire quand tout va bien, quand tout va mal. Il y a des jours d'épreuve, oui ou non? Il y a des jours faciles. Il n'y a pas des jours faciles? Ben si. Il y a des jours difficiles, il y a des jours où on est en bonne santé, il y a des jours où on est malade. Hein? Il y a des jours où il y a ceci, il y a des jours où il n'y a pas cela, etc. En tout temps, ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils non, ah non, ça ne va pas, je ne prie plus. Je ne prie plus, ils boudent le Seigneur. Non, je ne vais pas à l'église. Vous voyez, ils vont s'accrocher avec leur conjoint, je ne vais pas à l'église. Ils boudent le Seigneur parce que vous voyez, ils ont un problème avec le patron. Vous voyez un petit peu la piété, comment elle est élevée dans ces niveaux-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour vous dire la légèreté des croyants qui sont capables de ne pas s'appliquer à rechercher Dieu parce qu'ils boudent. C'est les enfants qui boudent. Vous avez vu, je ne mange plus. Vous voyez? Et ouais, ben ça vous montre la maturité des gens. Quand quelqu'un boude, il est spirituellement un enfant. Et ce n'est pas comme ça que ces fleuves de bénédiction vont jaillir. Car s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est nous remplir de sa bénédiction pour que cette bénédiction se transpose ou se transverse sur les autres. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avez-vous soif? Est-ce que ça vous est, qu'est-ce que vous avez bu le plus dans votre vie, dans une journée? Un litre d'eau? On ne va parler que de l'eau uniquement. Hein? Qu'avez-vous bu dans votre vie? Est-ce que vous vous rappelez la quantité d'eau que vous avez le plus ingurgité en une journée? 2 litres. Je me souviens d'une fois, je vous le dis parce que ça me vient à l'esprit, je travaillais à l'EDF et j'étais resté toute une journée, toute une matinée sur un pylône. Une chaleur, et quand je suis, et j'ai prié, j'étais chrétien, j'ai dit Seigneur, il faut que j'aie à boire. J'étais dans un champ, il n'y avait personne et tout. Et puis un paysan qui est arrivé, il m'a dit vous avez soif, tout ça. Je descendais, je dis, ah oui. Il m'a donné 1,5 litre d'eau en bouteille, 1,5 litre. Je l'ai bu d'un trait. Quand j'y repens, 1,5 litre, pas 1 litre, je l'ai bu d'un trait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai bu aussi vite. Le gars, il m'a regardé, il a pas trop compris. Mais moi, j'ai compris. C'est qu'on peut vraiment avoir soif. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut vraiment avoir soif. Et spirituellement, votre niveau de spiritualité dépendra de la soif que vous avez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, car boire, ce n'est pas lire mécaniquement la Bible. C'est lire et saisir. Un verre, vous ne dites pas, ah, c'est de l'eau, ah, c'est bien, ah, elle est fraîche, ah, et il y a du fer dedans, c'est bien, il y a du calcium. Non, il faut la boire. Il faut l'accepter. Une parole de l'Écriture, il faut la croire. Quand le Seigneur dit certaines choses, il faut l'accepter. Quand le Seigneur nous demande de nous repentir et de nous convertir, il faut dire, ah, c'est bien, ah, ça serait bien, tiens, pour ma belle-mère, ça lui ferait du bien. Ça, ah, si mon mari se convertissait, ben, ça serait bien. Il pourrait m'amener à l'église, ça serait bien, ça. Ça, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Voyez, c'est quelque chose de personnel. Seigneur, tu me parles, je reçois ta parole, je lis ta parole, et tu es en train de me parler, je suis en train de recevoir. D'ailleurs, si vous revenez au verset de Jean, car je crois que c'est important de le souligner, parce que c'est la condition. Y en a-t-il parmi vous qui veulent être des fleuves d'eau vive? Est-ce que pour vous c'est important d'être une bénédiction pour les autres? Ou est-ce que vous êtes une source de problèmes? Non mais, il y a des gens, ils sont qu'à problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, vous savez que ça va être pénible. Il n'y en a pas des gens comme ça? Est-ce que vous en connaissez? On en connaît tous, on a tous même une liste. C'est pas vrai? Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, c'est tout le temps des problèmes. Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, vous savez qu'ils vont vous faire du bien. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des gens qui vous font du bien? Pourquoi y a-t-il des gens qui vous fatiguent? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des gens qui reçoivent. Ils reçoivent de Dieu, et quand vous recevez de Dieu, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous ne faites que ressortir ce que vous avez reçu. Alléluia. Et si vous vous alimentez de choses mauvaises, de choses agressives, de choses violentes, de critiques, de calomnies, de malédictions, et tout ce que vous voudrez, eh bien ça ressortira. Et voilà. Quelqu'un qui est négatif, qui a les paroles négatives, parce qu'il s'entretient des choses négatives. Regardez, on revient à cette promesse. Donc, on est au verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La conséquence, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'il en soit ainsi dans les églises de Toulouse. Que les chrétiens soient tous des fleuves d'eau vive. Ça vous intéresse? Voilà, alors ça dépendra de votre soif, ça dépendra du canal que vous deviendrez. Si vous êtes un petit tuyau, il ne pourra sortir que de la fonction de la dimension de ce tuyau. Si vous êtes un tube, comment on appelle ça, c'est pipeline, là, de 2 mètres, 3 mètres, eh bien ça va sortir en grande quantité. Voilà ce que le Seigneur veut. Mais regardez la suite. Au verset 39, ça correspond au sujet que nous sommes en train d'aborder dans l'Église d'une manière sérieuse. Au verset 39, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ça, c'est une clé pour comprendre que ça dépend de quoi on le lit. Il dit cela de l'Esprit. Vous l'avez, Esprit, c'est un E minuscule ou un E majuscule? Donc, ça parle de qui? Du Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc vous avez la preuve que croire, c'est recevoir. Vous avez vu? Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Je répète parce que je me rends compte de plus en plus que les gens ne comprennent pas. Je le relis pour vous aider peut-être même à vous apprendre à méditer quand vous lisez. Je relis. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croirait. Dans la parole de Dieu, quelqu'un qui croit, ce n'est pas quelqu'un qui est d'accord, qui dit oui, c'est bien, c'est biblique, ah oui, c'est comme ça. Non, quelqu'un qui croit, croire dans la Bible, c'est recevoir. Parce que je bois, je reçois. Parce que je saisis ce qui est dit, je le reçois, ça pénètre dans mon esprit, c'est gravé dans mon cœur, ça s'introduit dans mon âme et je le garde dans mon cœur. Et on le voit même un peu avant, regardez dans Jean au chapitre 1er, au verset, dans le prologue, lorsqu'il parle de la parole de Dieu, au verset 11, c'est surtout le verset 12 qui nous intéresse, regardez bien, elle est venue chez les siens, il parle de la lumière, hein, de Jésus, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc voyez que à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient. Donc croire, c'est recevoir. Et le problème, c'est que, moi je pense que la vieille nature, la superficialité, la légèreté, et le diable qui met son grain de sel également, il fera tout pour que nous nous contentions de croire intellectuellement. Voilà, je lis, mais oui, bon, je lis, il faut lire. Voilà, quand on en est là, c'est certain que, comme cette dame qui me dit, ah, mais moi l'évangile, je l'ai déjà lu, je le relis pas, c'est pas la peine, je sais ce qu'il y a dedans. Oui, c'est une femme qui n'était pas régénérée, qui n'était pas née de nouveau. Elle s'imaginait que l'Évangile, c'est comme les romans de Victor Hugo, on les lit une fois ou deux, et puis bon, ça passe. Non. Victor Hugo, il a écrit de bonnes choses. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui comparent les poètes français aux Évangiles, je pense que là, il y a un petit problème. La poésie, c'est bien. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui vient de la part de Dieu. Cette parole, elle est capable de vous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il disait cela de ceux qui devaient recevoir. Que recevez-vous? Voulez-vous recevoir davantage? Quelle sorte de canot voulez-vous être? De canot de bénédiction? Un petit canal ou un gros canal? Une grosse vanne qui va mener la bénédiction sur les autres. Et vous devez avoir le courage de vous interroger vous-même. Mais qu'est-ce que j'amène aux autres? Est-ce que les autres, je les fatigue? Je me souviens, moi, de cette époque où j'avais tellement de travail, j'en négligeais ma communion avec Dieu, c'était ici, en plus, il y a peut-être 12 ans, 10 ans, et je me rappelle, un soir, j'avais fait un partage avec mes enfants, et je sais pas, j'ai prouvé le besoin de dire, écoutez, on va faire une espèce de test ce soir, de bilan, vous allez me dire ce que vous pensez de moi. Je commence par ma fille. Tu veux qu'on te dise, tu veux qu'on te réponde? Oui. Papa, tu es irrité. Quand tu parles, tu nous irrites. Jonathan, je pense la même chose que ma sœur. Pareil, papa, je pense pareil. Et ma femme, ils ont raison. Mais voyez, et je les ai remerciés. J'ai pleuré un peu, ça m'a fait du bien. Et puis je les ai remerciés. Parce que je peux vous dire que des fois, c'est bien quand même de s'examiner. Mais ça, il faut le faire avec des gens qui nous aiment. Parce que j'ai confiance à ma femme et j'ai confiance à mes enfants. Et je savais que s'ils me disaient quelque chose, ça ne serait pas pour me démolir, ça serait pour m'éclairer. Et j'ai recommencé à me tenir devant Dieu. Pourtant, je n'étais pas sœur, je me tenais devant Dieu pour l'église, ça, il n'y a jamais eu de problème. Mais un cuisinier, il faut qu'il fasse la nourriture pour les clients, mais un cuisinier, il faut aussi qu'il mange. Mais est-ce que vous comprenez, je veux dire? Et le Seigneur m'a montré qu'un pasteur, il doit d'abord se nourrir à lui, avant de nourrir les autres. Et voyez, et ça s'est réglé. Mais quand je parlais, ce n'était pas la paix et la bénédiction que je donnais à ma famille, c'était l'irritation. Et c'est écrit, père, n'irritez pas vos enfants. Oui, mais des fois, on ne se rend même pas compte. Et il est important quand même de savoir ce qui se déverse de notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Car nous avons un Dieu qui propose et qui continue à proposer, tant que la porte est ouverte, eh bien, des fleuves d'eau vive. C'est la paix que nous devons nous procurer les uns les autres. Quand nous parlons ensemble, est-ce que c'est bien de se procurer la paix? Dans un petit quart d'heure, 20 minutes, le culte va se terminer. On va se congratuler, se saluer, se faire un bisou, se serrer la main. Mais on va parler. Est-ce que vous allez faire du bien à quelqu'un ou est-ce que vous allez l'épuiser? Ça arrive, ça, monsieur Gou. Quand je parle avec cette sœur, elle me fatigue. Ah bon, vous aussi? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème. Et je crois que c'est une question d'intégrité. Je crois que si on se tient devant Dieu, le Seigneur nous éclairera. Béni soit Dieu si vous avez un ami, un vrai ami. Si vous êtes prêt à accepter la vérité. Si vous êtes prêt à accepter la vérité. Parce que je crois qu'il y a une question d'honnêteté devant Dieu. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui reçoit. Et la clé de cette promesse, de cette bénédiction, de cette abondance, de cette vie de l'Esprit, c'est de recevoir. De recevoir, nous en avons parlé hier matin, comme Marie, quand elle se tenait assise au pied du Seigneur, elle n'était pas en train de paresser et de s'arranger pour ne pas travailler, elle était en train de recevoir. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui s'attachent à lui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme. On va le lire ce texte dans Jérémie 17. Regardez la bénédiction. Je ne sais pas si c'est important pour vous d'être béni. Est-ce que c'est important la bénédiction? Mais pourquoi Dieu serait-il au milieu de nous tout à fond cet après-midi? Est-ce que ce n'est pas pour nous bénir? Pourquoi il est là le Seigneur? Hein? Pour nous bénir? Non? Quand vous ne me répondez pas, je pars du principe, vous êtes quand même d'accord avec moi. Jérémie 17, verset 7. On va lire le verset 5, parce qu'il met en opposition deux attitudes spirituelles. Deux attitudes. Il parle de l'homme qui est maudit et de l'homme qui est béni. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits. Ils sont maudits dans le sens où ils se font du mal. C'est ça ce que ça veut dire. Maudit, c'est le mal, c'est le malheur. Hein. Ce n'est pas des malédictions prononcées. Hein. Ça veut dire quelqu'un qui se fait du mal. Et béni, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reçoit du bien. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Vous voyez, quand on se confie en soi, on se confie en soi-même, on se confie dans ses forces, on se confie dans sa religion, on se confie dans ses prières. Est-ce que c'est bien de prier? Mais est-ce qu'il faut se confier dans ses prières? Mais non, moi je prie une heure. Il me disait, ah bon, et alors ça veut dire quoi? Parce que vous priez une heure, vous vous confiez en quoi? En Dieu ou en vos prières? On peut se poser la question. Je crois qu'on n'a pas étalé le temps que l'on prie devant Dieu. Est-ce que c'est pas important? Ah, moi je donne temps à l'œuvre de Dieu. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Voyez, on voit bien qu'il y a un décalage. C'est ça, maudit soit l'homme qui se confie dans moi, j'ai ma religion. Voilà, maudit soit l'homme qui se confie dans sa religion, dans ses œuvres, dans ses forces, dans sa piété et dans tout ce que vous voudrez, il est quand même misérable. Combien de chrétiens de différentes confessions sont malheureux, misérables, toujours angoissés, ils croient en Dieu quand ils en ont besoin, ils croient en Dieu parce que ça les arrange, ils croient en Dieu parce qu'ils se disent « si je me mets Dieu de mon côté, ça peut me servir quand je vais partir de la terre ». Tout ça, ce n'est pas sérieux. Verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Vous voyez, on en revient à cette image de l'abondance, de la fraîcheur, de la restauration. Quelle grâce! Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Vous savez, l'année 2012, ça va être une année de crise. Mais moi, je crois que les chrétiens qui sont pieux, ils ne verront pas la chaleur. Ils ne la subiront pas. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la crise, dans l'année de la sécheresse. Il n'a pas de crainte. C'était volontaire, mon lapsus. Et il ne cesse de porter du fruit. Vous le croyez, ça? Eh bien sûr! C'est une bénédiction. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Béni soit l'homme, si je reviens à Jean 7, béni soit l'homme qui vient à Jésus, qui s'approche du Seigneur, qui est là, qui reçoit. Il écoute une promesse, il la serre dans son cœur. Ce que je lis, je le reçois. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, ce livre assez difficile à comprendre, mais c'est le seul livre où il nous est parlé du bonheur de celui qui le lit. Mais quand même, il y a trois conditions pour être heureux lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il y a des gens qui lisent la Bible et disent « moi je lis la Bible, mais ça ne me fait rien du tout ». Ah bon? Moi je la lis, ça me procure du bonheur. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Il y a des gens qui lisent la Bible, ça ne leur fait rien du tout, ils lisent un bouquin, excusez-moi. Et il y a des gens qui lisent et qui sont heureux. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils lisent, ils vivent le verset 3 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Voilà, c'est ce qu'on est en train de partager, ceux qui reçoivent. 1, verset 3, « Heureux celui qui lit. » Mais c'est pas, la phrase n'est pas finie. « Heureux celui qui lit. » Deuxièmement, « Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Deuxièmement, « Entendre. » Est-ce qu'il y a une différence entre lire et entendre? Une grosse. « Et qui garde. » Donc, il y a trois verbes qui indiquent comment on est heureux. On n'est pas heureux parce qu'on lit. On est heureux parce que ce qu'on lit, on l'entend. On peut écouter quelqu'un et ne pas entendre ce qu'il nous dit. Ça vous est jamais arrivé de regarder la télé, par exemple, et de ne pas entendre ce qui se dit parce que vous êtes accaparé par autre chose. Ça vous est déjà arrivé, même peut-être devant quelqu'un, vous écoutez quelqu'un, mais il vous dit toujours les mêmes choses, alors vous l'écoutez, mais vous entendez pas ce qu'il vous dit. Ça vous est jamais arrivé? Quelqu'un qui rabâche toujours les mêmes trucs, vous faites signe de la tête, oui, mais faites de compte, vous êtes ailleurs. Ça vous est jamais arrivé de le faire? Moi, oui. Bon, c'est pas bien. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé? Bon. Et c'est ça. Il y a des gens, ils lisent la parole, mais ils n'entendent rien. Ils lisent. Qu'est-ce que tu as lu ce matin? Ah, j'ai lu dans la Bible, j'ai lu, mais je ne sais plus trop quoi. Bon, ça peut arriver, c'est pas une question de mémoire. Mais quand même, heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Ce que le Seigneur m'a donné, je le garde. Le Seigneur m'a parlé toute la semaine sur ma piété, comment avoir une véritable piété. J'ai médité les épîtres de Paul à Timothée, je donne un exemple. Et j'ai médité les textes, oui, je veillerai sur certaines choses. Oui, je serai sobre dans celles-ci. Et voilà. Et vous gardez ces choses, et la Bible, on l'a lu, celui qui veille et celui qui prie, il a de la force. C'est pas le hasard. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont plus forts? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont plus faibles? C'est parce qu'ils sont meilleurs les uns que les autres. Quelqu'un un jour me disait, oh, vous savez, monsieur Gault, les gens qui restent à l'église, c'est les gens qui n'ont pas de problème. Attends, je dis, attends. Tu peux répéter? Oui, les gens qui abandonnent Dieu, c'est des gens qui ont des problèmes. Je vais t'expliquer quand même. Je crois que les gens qui restent fidèles à Dieu, ils ont les mêmes problèmes que les autres. On a tous à peu près les mêmes épreuves, plus ou moins. Je généralise, mais vous êtes d'accord avec moi, il y a quand même, on a tous, hein, on peut traverser tous un deuil. Je veux dire, voilà. Non, je crois que ceux qui rétrogradent, ce sont ceux qui ne gardent pas. Ils ne reçoivent pas, donc ils n'ont pas de force pour persévérer. C'est pas un jugement, c'est comme ça. Lorsque l'on devient un fils prodigue, c'est qu'il y a, comme le fils prodigue dans la parabole, il y a une erreur de jugement, je vais faire les choses à ma façon, moi je veux prendre ma part qui me revient, je fais comme il me plaît. Voilà, on est dans un monde où les gens ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de pasteur, voilà. Mais faites. Mais je peux vous dire que ça ne vous aidera pas. Je crois que Dieu nous a créés de sorte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, mais Dieu nous a créés également pour qu'on dépende les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Il y a plein de choses qu'il faut faire tout seul, voilà. Aimer la solitude, c'est certainement bien, mais on ne peut pas qu'aimer la solitude, il faut aimer aussi le contact avec les autres. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, heureux celui qui garde. Voilà, vous avez entendu une prédication, vous dites oui, c'est vrai, tout ce qu'a dit M. Gault, c'est biblique. Si quelqu'un peut me prouver que j'ai dit quelque chose qui n'est pas biblique, reprenez-moi, ça me conviendra très bien. Mais ce n'est pas parce que vous avez entendu une prédication que vous serez heureux. Par contre, si vous veniez, vous qui avez soif, vous qui aimeriez être une bénédiction, vous qui aimeriez être des fleuves d'eau vive, vous qui dites, voilà, maintenant je vais avoir soif. La parole de Dieu, je ne vais pas la lire parce que de temps en temps, ça me tranquillise, au moins je me fais croire que je suis un chrétien. Non, je vais la lire. Je vais entendre ce que Dieu a à me dire. Et surtout, je vais le garder. Je vais le garder dans mon cœur. C'est David qui dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Je serre ta parole. Un jour, il y a un chrétien qui me dit, « Ah, monsieur Gault, la Bible, je la serre dans mon cœur. » Ah, je dis, « C'est bien, mais à quoi ça vous sert ?»« Ah, je la mets même dans le coffre de ma voiture. » Vous savez, dans la boîte à gants. Dans votre... Ah bon ? Et je dis, « Mais pourquoi ?»« Eh bien, parce que ça va me porter bonheur. » Ah, il y a bon. 15 jours après, il a eu un accident, la pauvre agnole. Je lui avais dit, mais vous voyez, je serre ta parole dans mon cœur, c'est pas serrer la Bible contre sa poitrine. Serrer la parole dans son cœur, serrer, c'est le même sens qu'on disait avant, je serre la récolte. S'il y en a qui ont été à la campagne, on disait serrer la récolte, ça veut dire on engrange quelque chose. Vous voyez, on disait ça, on va serrer le foin, je le sais, je l'ai fait. Bon. Hein? Eh bien, vous voyez, je serre ta parole, ça veut dire j'engrange dans mon cœur de la déréserve. Je serre ta parole. J'engrange dans ma vie spirituelle. Il ne faut pas s'étonner que quand on en a besoin après, eh bien ça y est. Et quelqu'un qui déverse des bénédictions, c'est quelqu'un qui a reçu. Et je termine avec cette pensée parce qu'elle s'est imposée à mon esprit. Dans la voiture l'autre jour, je pensais à ce texte où il est dit que les palmiers, les justes, ils croissent comme les palmiers. Vous avez déjà vu des palmiers? Dans le désert, il y en a. Vous savez que c'est un arbre où les racines sont plus grandes que l'arbre. C'est-à-dire, si un palmier fait 15 mètres, Les racines font 15, 16, 17 mètres ou plus. Les racines sont plus... Elles poussent droite en plus, en profondeur. C'est pour ça qu'elles vont chercher l'eau. Et Dieu compare le juste à un palmier pour qui la vie cachée, les racines, sont plus importantes que ce qui est dehors, ce que l'on voit. Vous ne trouvez pas que cette image est extraordinaire? Et vous lirez ce texte et vous verrez qu'il ne peut pas en être autrement que même dans le désert, un juste, et un juste, il n'est pas dit le chrétien, le croyant, le catholique ou le protestant, il est dit le juste. Le juste dans la Bible, c'est celui qui fait ce qui est juste. Bon, vous allez me dire ça, je n'ai pas fait 3 ans d'études bibliques pour vous expliquer ça. Un juste, c'est quelqu'un qui fait ce que Dieu dit. Voilà, quand Dieu nous demande qu'il faut pardonner, le juste, eh bien il pardonne. Il a envie, il n'a pas envie, il a de bon poil ou pas, il pardonne. C'est ça être juste, parce que la Bible nous demande de pardonner. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a déjà, ah non, j'ai pas, je ne sens pas, ce n'est pas le moment. Quand je... Voilà, ce n'est pas l'arrangement que c'est, mais ce n'est pas être juste. Parce qu'il y a des contrariétés, on va s'attraper avec l'un, ça peut arriver. Mais vous comprenez? Voilà, le juste, voilà. Pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Voilà, on m'a offensé, j'ai offensé quelqu'un. Voilà. Et le juste, c'est celui qui fait ce que Dieu dit. Il est comme un arbre planté dans un désert, sa vie cachée. Quand quelqu'un vient avec Jésus, c'est ça, c'est celui qui, si tu pries, entre dans ta chambre. C'est ça le lieu secret, c'est la vie cachée. Mais la vie cachée, elle comprend quoi? 5 minutes? Si vous avez un culte de 5 minutes, ça vous donne l'idée de la taille des racines. Si vous prenez du temps de qualité devant Dieu, vous ne pourrez pas faire autrement que de voir votre vie s'enraciner. Et vous recevrez, et quand vous sortirez dans la journée, quand vous sortirez, vous ne pourrez pas faire autrement que de déverser la vie que vous aurez reçue. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas de la religion, c'est la vie. Si vous passez 3 heures à regarder 2 matchs de foot, vous allez sortir et vous allez parler du foot à quelqu'un. T'as vu le match? Voilà. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je crois que les chrétiens, ils ont autre chose à faire que de raconter des blagues ou que de parler du foot. Ça peut arriver de parler des choses de la vie sociale. Mais je crois qu'un chrétien, il reçoit, il est enraciné. Rappelez-vous de cette image, sa vie cachée est plus importante que sa vie publique. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et si vous avez soif de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle bénédiction, d'un baptême du Saint-Esprit, si vous avez soif justement de recevoir, plongez-vous dans sa parole. Lisez-la, mais entendez ce qui est écrit. Et gardez-le, écrivez-le. Moi, ça m'arrive, vous savez, de prendre des textes et de les écrire. Je les écris, parce que j'ai lu à plusieurs endroits que quand on lit quelque chose et quand on l'écrit, on le retient 3 fois plus. Le fait de l'écrire, de le lire, de l'entendre, de le relire, et le lendemain je le relis, et je m'en rappelle, et ça se grave, et Dieu dit je les graverai dans votre cœur, je les graverai dans votre esprit. Oui, heureux, heureux ces hommes qui deviennent des sources de bénédiction. Les chrétiens doivent devenir des sources de bénédiction. Vous avez entendu cet après-midi ce qu'il vous faut faire. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous êtes malheureux de votre piété, si vous êtes malheureux de votre religion, si vous êtes malheureux de votre communion avec Dieu, eh bien, recommencez à vous appliquer et ne le faites surtout pas pour le faire. Ah, j'ai compris. J'ai compris le message. Il nous a dit qu'il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alors je vais passer 1 heure. Je vais lire pendant 1 heure. Et on va jouer la montre. Ne le faites pas, ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Si vous vous forcez et si toutes les 5 minutes vous regardez la montre, encore, il faut que je lise encore. Je ne pense pas que ça risque de marcher comme ça. Vous me suivez? Je crois qu'il faut le faire de bon cœur. Seigneur, j'ai peut-être que 20 minutes. Mais ces 20 minutes, elles vont être de qualité. Demain, je prendrai peut-être 25. En tous les cas, moi, je sais que quand Dieu m'a appelé au ministère, ça a commencé comme ça, avec des prédications de cet ordre, quand le pasteur disait, mais le matin, passez un quart d'heure, demi-heure. Et moi, je me levais à 5h30 et il me fallait me lever. Donc, à 5h moins le quart, c'est... je me disais, mais Seigneur, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai commencé à le faire. Et vous savez, quand vous enracinez quelque chose... Ça pompe. Les racines, elles pompent. Et la bénédiction vient. Qui veut être une source de bénédiction? Moi, je veux être une source bénédiction. Moi, je n'ai pas envie d'être un fardeau pour l'Église. Hein. J'ai envie d'être une bénédiction pour vous, pour ma femme qui sait dire les choses, et pour mes enfants. Est-ce que vous voulez être une source de bénédiction? Jésus, il le veut. Si vous avez soif, vous allez venir dans sa présence. Vous n'allez pas chercher la bénédiction, vous allez le chercher à lui. Et il faut que nous apprenions dans nos cultes d'adoration à ne pas prier pour les uns, pour les autres. On devrait dans les cultes d'adoration ne faire qu'adorer Dieu. C'est très bien de prier pour Tati, pour Tonton, pour Pépé et Mémé, mais je pense qu'on a toute la semaine pour prier. Et je pense que ça serait bien, pendant les cultes d'adoration, d'adorer le Seigneur. De l'adorer, de le louer, de le célébrer, de le glorifier. Je pense que ce n'est pas trop de le faire pendant quelques minutes, pendant le culte du dimanche. Mais cette promesse, elle est invariable, elle est éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus. Quand vous ouvrez votre Bible, retrouvez-vous dans la présence de Jésus. Cherchez Jésus, soyez avec le Seigneur Jésus. Lisez, entendez, gardez, et des fleuves d'eau vive couleront sur les âmes perdues. On ferme les yeux quelques instants, on se recueille, on a besoin de se recueillir, hein. Voilà, quelques frères, nous voulons répondre à cette prédication. On va prendre le pain et le vin, ça s'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, qui ont accepté le Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. C'est un moment important qui nous permet de nous interroger, de nous examiner, de dire où j'en suis de ma communion avec le Seigneur. Peut-être que vous êtes nouveau et que vous êtes venu parce que justement vous avez soif, vous voulez retrouver ou trouver la communion. Peut-être que vous êtes chrétien et que vous avez perdu cette fraîcheur, cette vie de l'esprit. Vous êtes dans le désert, mais il n'y a pas de racines. Donc l'arbre, le palmier, ben il va sécher. Mais vous pouvez dire, Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle-moi, je veux être ce palmier dans le désert. C'est une année de crise devant nous, mais quelle belle église, que l'église remplie de palmiers, qui continue à porter du fruit. Ils ne voient pas la chaleur arriver, ils ne sont pas là dans un débordement de tristesse, de misère. C'est la vie qui jaillit, la paix, la grâce. Oh, soyons, frères et sœurs, des sources de bénédiction. Notre Père, notre Dieu, tu nous as donné à tous, nous le voyons dans cette parole, tu proposes à tous les hommes, pendant tous les siècles, de toutes les générations, de tous les pays du monde, tu proposes à tous les hommes d'être des sources de bénédiction, des fleuves d'eau vive. Seigneur, nous voulons en cette année 2012 nous appliquer à te chercher à toi, chercher ta face, afin que des fleuves d'eau vive, que la vie de l'Esprit se manifeste. Tu vois ceux qui sont là pour les premières fois, ceux qui sont en train de découvrir l'Évangile, donne-leur, Seigneur, non pas de découvrir un nouveau mouvement religieux, mais de te découvrir à toi, de découvrir l'Évangile, de découvrir l'onction de Dieu que tu donnes lorsqu'un homme lit, lorsqu'il entend et lorsqu'il garde ta parole. Seigneur, bénis cet auditoire. Merci pour la Sainte Cène, que cela nous permette de réaliser combien tu as souffert, combien ton sang a été versé, combien ton corps a été brisé pour nous ouvrir le ciel. Que ton nom soit béni. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent à leur place avec beaucoup de joie et qu'ils prennent le pain et le vin avec respect et reconnaissance. Vous qui n'êtes pas encore engagés avec Dieu, vous qui restez assis, convertissez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ, donnez-lui votre cœur, devenez ces fleuves d'eau vive, devenez cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse.